Donc vous êtes assez nombreuses, par conséquent, préparez vos entretiens. Au début, pour ma part, je donne 15-20 minutes, puis après, si les rendez-vous exigent plus longtemps parce qu'il y a des grosses difficultés à voir ou autre, on peut voir un peu plus durant la suite de la retraite, puis vous pouvez passer deux ou trois fois en principe, en général. Donc 15-20 minutes, préparez votre entretien, et puis quoi d'autre? J'ai oublié, il y avait une quatrième chose, mais bon, c'est pas grave. Alors ce matin, vous avez dû voir, enfin saisir que J.B. Troidec l'a expliqué à travers le mystère de la très sainte Trinité. Vous avez eu les perfections de Dieu. Il s'agit dans une retraite de se plonger dans le bon Dieu. Donc il s'agit dans cette première journée de se mettre, on pourrait dire, dans l'atmosphère de Dieu. Essayer d'y rentrer. Un prêtre qui parlait de l'oraison, notamment, disait, il comparait à la montée de la marée en mer. Il dit, alors ça commence par, c'est les pieds, après c'est les mollets, après c'est les jambes, puis après, bon, on est peu à peu, on est immergé, il y a l'eau qui monte. Voilà. Donc se plonger peu à peu dans le monde Dieu, ou au contraire, la tête première dans le monde Dieu. Bon, le cœur en tout cas. Alors, c'est ça qui est important. Quand, je crois que vous avez tout le programme un peu de la journée ou des sujets. Alors, moi, quand j'ai regardé la première fois, alors, la Trinité, les perfections de Dieu. Ah, le péché. Oh. Bon. Alors, nous allons essayer justement de rester dans cette atmosphère de la Trinité, du bon Dieu, des perfections de Dieu. Et c'était très bien, Providence sait très bien les choses. Ce que Monseigneur a dit, durant l'instruction de midi que nous avons entendu, c'est exactement ça que nous allons essayer de faire. Je ne sais pas si on y arrivera, mais on va essayer. Il faut que nous arrivions à voir les choses comme Dieu les voit. Voilà. Comme Dieu les voit. Il nous parlait de ses lunettes, ou il parlait de ses yeux, bon, les lunettes du bon Dieu, le cœur du bon Dieu, l'esprit de Dieu, voir les choses de Dieu comme Dieu les voit. Et notamment cette réalité du péché. Voilà. Qui... Déjà, même pour les hommes qui ont reconnu qu'il existait un péché dans la moralité, les philosophes, si vous voulez, avant même qu'il y ait, ou en dehors même de la religion révélée, cette question du mal qui tourmente les hommes, le mal, et spécialement le mal moral. Pas seulement le mal physique, les maladies, les défectuosités dans l'ordre de la nature, mais ce mal moral, ce mal qui habite la volonté de l'homme, la nature humaine. Je me souviens d'un... à la fois un poète et un écrivain, un poète, mais aussi un spirituel, si on peut appeler ça comme ça. Un penseur, en tout cas. Il disait, quelqu'un qui voulait pas reconnaître le péché originel, il lui disait, à mon ami, moi j'ai un ami, c'est un poisson. Un poisson. Ah oui, moi, ça, oui. Dans un aquarium, ou dans la mer, j'ai un ami poisson. Et quand je lui parle de l'eau, il me dit qu'il a jamais vu l'eau. Voilà. Vous êtes tellement plongé en péché originel, dans l'esprit péché originel, que vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que le péché, comme Dieu, participe en quelque sorte au mystère de Dieu. Alors bien sûr, nous voyons les effets d'une volonté mauvaise, ou d'une volonté générale, mais c'est toujours un peu comme au moment du péché originel. C'est pas ma faute, c'est l'autre. Alors j'ai essayé de voir ça, descendre dans ce mystère. C'est un mystère, dont nous voyons les effets, dont nous souffrons des effets, mais c'est d'abord un mystère. Qu'il s'agit du mystère du péché originel, des suites du péché originel, du mystère qui est le péché mortel. Qu'est-ce que c'est que le péché mortel? C'est le mal moral. Et puis, donc même ce péché véniel, délibéré. C'est surtout ça, d'ailleurs, le cœur de l'instruction, et surtout sur le péché mortel, à titre d'état plus que d'acte, je vous expliquerai la distinction, et le péché véniel délibéré à titre d'habitude, d'état plus que d'acte. Nous verrons la différence entre un état et des actes successifs. C'est vrai en tout cas. Donc bien voir ça. Il y a un mystère. Et donc pour avoir la pensée de Dieu, évidemment, ce beau texte de Malachie, nous avons entendu à midi, qu'est-ce que Dieu pense du péché? Eh bien, il est très sensible au péché, le bon Dieu. Dans la Sainte Écriture, spécialement l'Ancien Testament, quand on parle des anthropomorphismes, c'est-à-dire de faire Dieu trop un homme, Dieu gémit, Dieu pleure, Dieu a la haine, Dieu a le dégoût, Dieu a l'aversion, Dieu a l'horreur du péché. pas du pécheur, mais du péché. Péché. C'est comme, c'est un, il a une répulsion, on pourrait dire, native, instinctive, avec le péché. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour éclairer le péché, il faut justement nous plonger dans la très sainte Trinité et les perfections de Dieu. La Trinité, vous savez, c'est cette histoire éternelle du Père et du Fils. Le Père qui donne tout son être, toutes ses perfections, tout son amour, toute sa bonté, toute sa beauté au Fils. Et le Fils lui renvoie tout cela. Et puis les deux, vous le savez, dans un acte commun, eh bien, un jaillissement d'amour qui vient de cet échange, de cette communication à égalité et distinction, comme vous l'avez expliqué ce matin, entre le Père et le Fils. Éternellement, le bon Dieu, sans aucun égoïsme, vous avez un peu de mal à concevoir ça, vous parlez avec, et souvent, plus les gens sont éloignés de Dieu, plus ils ont du mal à comprendre que Dieu s'aime lui-même. Ben, si on s'aime soi-même, on est un égoïste. Apparemment, oui. Pas en Dieu. Et souvent, les gens qui ont du mal à comprendre ça, c'est que eux-mêmes, la forme d'amour qu'ils ont est tellement ancrée en eux qu'ils s'aiment comme un égo, que toute forme d'amour pour eux est égoïste. Alors que justement, la beauté de l'amour qui vient de la très sainte Trinité, c'est que chacune des personnes est vers l'autre. Le Père est vers le Fils est vers le Père. Le Père et le Fils sont vers le Saint-Esprit, ils sont ad, ad aliud, on dit en théologie. Ad, être tourné vers l'autre, pas tourné vers l'autre. Et alors ce qui fait la, on pourrait dire, le champ éternel du bon Dieu, toutes ses perfections, vous en avez parlé suffisamment, je donne juste ce rappel pour que vous mettiez bien dans l'atmosphère, et comme ça vous verrez bien le contraste qu'il y a avec le péché. Qu'est-ce que Dieu veut éternellement, avant même la création de toute éternité? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Bien, manifester ses perfections, spécialement ses perfections, spécialement puisque le fond intime du bon Dieu, c'est l'amour. C'est donc cette bienveillance, cette bienfaisance, ça Bossuet dit ce plein contentement intérieur. Alors le but, qu'est-ce qu'il cherche éternellement? Qu'est-ce qu'il fait éternellement le bon Dieu? Même avant qu'il ait la création des anges, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, chacune des personnes divines chante la gloire des deux autres. Voilà, chante la gloire des deux autres en disant, en manifestant, en exprimant, en explicitant. Le Père, le Fils est heureux de dire qui est son Père, qu'il est beau, qu'il est bon, qu'il est sage, qu'il tient tout de lui. C'est sa joie au Fils de faire ça. C'est sa joie de tout recevoir de son Père. La joie du Père, c'est se donner à ce Fils bien-aimé éternellement. La joie, c'est le bonheur du bon Dieu, ça. Et les deux, leur bonheur, c'est de manifester l'un à l'autre cet esprit commun. Évidemment, l'Esprit Saint glorifie le Père et le Fils. C'est tout le discours de Saint Jean. Voilà ce qui se fait éternellement. Et bon Dieu n'a besoin que de ça. Si bien qu'on est dans un deuxième mystère, pourquoi il va créer? Qu'est-ce qu'il a besoin de créer? Avec tous les ennuis qu'il voulait faire l'homme en plus, spécialement la deuxième personne de la Trinité. Quel besoin, quelle idée lui a pris de... C'est une manière humaine de parler, mais quelle idée a pris de faire la création? Eh bien, c'est ça qui nous échappe complètement. Décider de faire exister des créatures qui sont parfaitement, on dit en philosophie, contingentes, qui pourraient bien ne pas exister, qui sont des purs possibles, qui pourraient ne pas exister, qui pourraient exister, mais qui pourraient aussi bien ne pas exister. Je veux les faire exister. Les faire exister pour qu'elles participent à ce bonheur, à cette joie, à ce contentement éternel qui est en nous. Et en même temps, cette création ne va rien m'ajouter. Rien du tout. Et on dit, on exprime ça en philosophie, avec des termes un peu techniques dont je vous fais grâce. La création, d'une certaine façon, n'ajoute rien à Dieu, mais à la création, pour la création, Dieu, c'est tout, quoi. Il nous l'a suffisamment dit à midi, Monseigneur, c'est tout pour la création. Et dans cette création, tous les êtres, tous les degrés d'être de perfection, spécialement la créature humaine, on dit voilà, que eh bien, nous sommes la création d'une réelle relation, elle est réellement rapportée à son créateur. Réellement, réellement. Sans le créateur, il n'y a plus de création. Voilà. Par contre, le créateur, lui, il n'est pas en rien, absolument en rien. Il est antérieur, supérieur, indépendant de sa création. Alors, pourquoi la création? Pour manifester la bonté, la bienveillance, la bienfaisance de Dieu, et que cela, des êtres gratuitement appelés à la vie puissent y participer, faire entrer dans le bonheur de Dieu ces êtres. Donc les êtres, dès qu'ils sont créés, ils sont orientés vers leur fin. De même que le Père, le Fils, Saint-Esprit sont ad, je vous ai dit, le Père, Fils, Saint-Esprit, etc. Ad, ils sont tournés vers l'autre, le Père vers le Fils vers le Père, le Saint-Esprit, etc. Le Père et Fils vers le Saint-Esprit, Saint-Esprit qui glorifie le Père et le Fils. Eh bien, des créatures vont exister, et la première créature, dès Adam, va exister pourquoi ? Eh bien, pour recevoir cette gloire trinitaire et la renvoyer. Donc le Père va faire dans le Fils, puisque tout est pensé dans le Fils, il va faire ses créatures. Voilà. Dans ma pensée éternelle, je vais faire exister des hommes voilà, qui seront un peu à l'image du Verbe, un peu à l'image de ma sagesse, un peu à l'image de ma filiation. Je vais les faire exister en moi, pour qu'ils participent à mon être, à mon action, à mon agir, à ma sagesse, à ma bonté, qu'ils puissent en bénéficier. Quand il y a un plein contentement, quand il y a la joie, je ne sais pas si vous avez des fois un grand sentiment de joie, on a envie que de faire participer. On a ça. Un grand sentiment d'enthousiasme. Il faut le communiquer. Le bon Dieu, on a ça. On a cette saine maladie bonne, quand il s'agit d'un vrai bien, de communiquer. On a besoin de communiquer. Sur plein, alors, il faut le dire. Il faut que ça sorte. Une abondance. Adam a été créé pour cela. Adam et puis Ève, bien sûr. Et donc, au jardin du paradis, vous avez une image de cela. Un reflet de tout cela. Eh bien, on dit, il y a les deux récits de la création, et dans un des récits, le soir, la brise du soir. Alors d'abord, le refrain de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était très bon. Et puis, il se promenait le soir à la brise du soir. L'intimité avec son Dieu. Adam se promenait dans le jardin du paradis, la brise du soir, avec Dieu. Et vous avez remarqué ça le soir, hein, le soir d'été, là. Le soleil est presque couché, pas encore tout à fait. La fraîcheur commence à venir. Si on a eu une journée un peu difficile et puis qu'on se retrouve en nature, comme j'espère que vous pourrez le faire pendant la retraite, il y a un calme, une intimité, un silence qui se fait dans les choses. Dieu est pas loin. Pas loin. Alors il y a eu ça. Magnifique. Et il était dans ce jardin de paradis. Vous savez, on parle un peu du péché originel, puisque dans ce péché originel, vous avez un peu le... Père Emmanuel fait ça dans son catéchisme. Vous avez le modèle, le schéma type de tous les péchés jusqu'à la fin des temps. Avec la manière de s'y prendre. Et la manière de s'en sortir aussi. Mais le tentateur, la chute, les suites de la chute. La psychologie de la tentation. La psychologie du péché. Les fins du péché. L'aboutissement du péché. Enfin, en tout cas, tu peux... prendre de tous les arbres qui sont, tout ce que tu veux te promener. Attention, mets pas la main sur ce fruit-là. Il y a un arbre vénéneux, là, au fond du jardin, là. Il y a de jolies boules rouges, là. Mais attention, hein, si tu manges ça, c'est joli à voir, mais c'est pas bon à manger. Faut pas que tu mettes ça. N'étends pas la main dessus. Ça veut dire, tu n'as pas pouvoir là-dessus. T'as pas autorité. T'as pas pouvoir sur quoi? Tu n'as pas pouvoir sur le bien et le mal. Tu n'es pas, en gros, tu n'es pas l'auteur du bien et du mal. Et, je te la donnerai, cette connaissance intime du bien et du mal, mais faut pas qu'elle vienne de ton autonomie, de ta personne, de ton orgueil, ta fierté, comme le démon va, le serpent va faire. Cette science du bien et du mal qu'on acquiert par soi-même, non. Cette science du bien et du mal, tu l'acquerras en observant ce précepte. Si tu observes ce précepte, malgré même la tentation, qui, bon Dieu a permise, bien, tu sauras vraiment ce qu'est le bien. Je t'apprendrai, par la science du bien, par l'expérience du bien, tu sauras ce qu'est le mal. Mais attention, hein, si c'est par un acte d'indépendance, d'orgueil, de désobéissance, comme et on va le voir dans le péché originel, alors là, tu mourras de mort. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est moi qui décide de ce qui est bien, de ce qui est mal. Hein, le péché de l'homme moderne. Le péché originel, ça continue. C'est pas une vieille histoire d'il y a 2000 et de plusieurs milliers d'années. Ça continue, le péché originel. Les suites, la psychologie du péché originel, ça continue. N'étends pas la main. Et le jour où la main était tendue, oh, le fruit, aux pommes, on s'en fiche, c'est poma en latin, ça veut pas dire pomme. Pas sûr de pomme. Hein, une pomme, hein, c'est un fruit. Que le fruit, peu importe. Pas l'important. Beau à voir, bon à manger, hein. Et bon, et voilà. Et puis, on bien, etc. Vous connaissez l'histoire. Bien. Dans son état natif, le bon Dieu est fait pour Dieu, fait pour chanter la gloire du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Après le premier péché, péché originel, qui est un péché mortel, fait mourir la vie de Dieu en lui. Le premier péché était le premier péché des anges, pour ceux qui ont fait les retraites de Saint-Ignace. Peut-être nous en dirons un mot, nous allons voir, puisque dans ce péché, il y a le schéma type aussi de tout péché, même pour le péché de l'homme, puisque en fait c'est à l'imitation de Satan, à l'imitation du démon que nous avons commis, notre nature humaine en Adam a commis le premier péché mortel. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'homme, vous voyez, il se cache, il commet le péché, il se cache, il n'y a plus cette intimité, il a peur, il a honte, etc. C'est le péché qui a fait ça, un désordre. Ah! On a dit le mot important, désordre, c'est à ça que je voulais arriver. L'ordre c'est quoi? L'ordre c'est d'être fait pour Dieu, nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour Dieu, faits pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour glorifier Dieu. Et nous revenons à la première question du catéchisme. Je suis fait pour connaître, pour aimer, pour servir, pour suivre Dieu. Je suis fait pour ça. C'est comme ça. Mais pourquoi je suis fait comme ça? Cette question-là, c'est une question du démon. Pourquoi je suis fait comme ça? Je vous lirai quelque chose à ce sujet-là, qui est très bien, du Père Emmanuel, si on a le temps. Je suis fait pour ça. Pourquoi? Est-ce que l'horloger, dit la Sainte Écriture, ou le vase, va dire « Pourquoi tu m'as fait peau, pourquoi tu m'as fait horloge, et pourquoi tu m'as fait... » Les animaux, les plantes ne se posent pas la question. Ils sont, et ils n'ont pas la raison. Malheureusement, c'est la raison, c'est le péché introduit justement. Dans les facultés supérieures, dans la raison, dans la volonté, dans l'âme, dans ces êtres spirituels, c'est cette dissonance dans l'être spirituel qui fait qu'ensuite on se pose des questions sur les lois physiques, les lois chimiques. Pourquoi ils ne se posent pas ces questions-là? Ils ne les connaissent pas. Mais la raison, elle, oui. Et alors, elle va jouer des créatures contre la gloire de Dieu, alors que ces créatures sont faites pour la gloire de Dieu. C'est là encore qu'est le péché. Tout ce qui est fait est bon. Tout ce qui est fait est bon. C'est l'usage, c'est le regard qu'on porte, c'est la visée, c'est l'intention qui va devenir mauvaise, qui va devenir un désordre. L'ordre, c'est que toutes les créatures soient hiérarchisées. Le minéral pour le végétal pour l'animal, l'animal pour l'homme pour l'ange d'une certaine façon. Tout se crée. Mais dès que l'ordre est inversé, dès que l'homme se sert lui-même ou devient, désordre. C'est plus pour la gloire de Dieu. Les créatures sont plus pour la gloire de Dieu. Elles sont détournées de leur fin. Tout est à toi, Adam, mais toi, tu es à Dieu. Voilà ce qu'on pourrait dire, la loi qui était. Tu es fait, ta fin, ta finalité, ton but ultime, c'est d'être fait pour Dieu. Tu es fait pour connaître, aimer, et comme tu es créé, servir ou suivre. C'est un service de fils, un service, un dévouement aimant d'un fils envers son père, sa mère, ses parents. C'est pas le dévouement ou le service du tyran, pas du tout. À partir de cette connaissance, de cet amour, de un service qui vient d'une connaissance, nos plus belles facultés, notre intelligence est faite pour connaître la vérité de Dieu, notre volonté pour aimer le bien de Dieu, le bien total de Dieu, et nos deux facultés pour faire servir notre corps, les autres êtres, à la gloire de Dieu. Et le jour où il n'y a plus ça, donc quand nous naissons vers Dieu, nous sommes comme ça, tournesol. C'est amusant, ça, tournesol, temps et le soleil. Nous naissons comment? Nous naissons le dos tourné à Dieu depuis que nous sommes, avant le baptême, nous naissons le dos tourné à Dieu, comme ça. On est tourné comme ça. Nous sommes en contradiction, nous naissons en contradiction avec notre fin. Au lieu de tourner vers Dieu, nous sommes tournés vers quoi? Vers nous. Notre moi corporel, notre psychisme animal, nos satisfactions, moi. Hein? Mon orgueil, mon plaisir, ma nature, ma volonté, mon intelligence, mes biens. Oui. Tous les mons et miens qui existent. La propriété. Amour propre, intérêt propre, satisfaction propre, propriétaire. Moi. Un moi collectif au besoin. Agrandissement de la volonté de puissance de l'un ou l'autre. Diabolique. Le péché mortel dans son essence, qu'est-ce que c'est, chers amis? Eh bien, détourner la gloire de Dieu. C'est plus la gloire de Dieu, c'est la gloire de tout sauf de Dieu. Je pensais, des fois c'est bien pour se donner à soi-même. Il me disait, vous voyez, on pourrait intituler l'instruction, pour que vous compreniez un peu. Est-ce que Dieu est tout ou est-ce qu'il est rien du tout? Est-ce qu'il faut dire Dieu mon tout, mon Dieu mon tout? Ou est-ce qu'il faut dire Dieu rien du tout? Rien du tout, c'est quoi? Celui qui dit rien du tout avec toute son intelligence, toute sa volonté, tout son cœur, c'est le démon. Bon Dieu, c'est rien. Dans Isaïe 14, je monterai jusqu'au ciel, je m'élèverai par moi-même, je serai semblable au Très-Haut. Ça, c'est le chant du démon. Et conséquence, non serviam. Et puis, comme j'ai quand même été un peu punir, maintenant je vais essayer de faire pécher la plus belle œuvre de Dieu. Donc, l'homme, j'ai été homicide et menteur dès le départ, je vais essayer de continuer mon homicide et mon mensonge, non plus sur Dieu, je peux plus l'atteindre, il m'a puni, mais sur son œuvre, sur sa création. Dieu permet ça. Pour un plus grand bien, nous dit saint Augustin, préfère exister le mal en sortant un plus grand bien que qu'il n'y ait rien du tout. C'est comme ça. Mystère. Mystère du mal. Je n'ai détourné de ma fin. Je n'ai sans la gloire de Dieu. Dieu, le dessein éternel de Dieu, c'est que je trouve mon bonheur, ma béatitude dans la gloire de Dieu. Dans le fait de connaître, d'aimer, de servir Dieu. Quand je ne le fais pas, là, la gloire et le bonheur se rejoignent. Nos deux fins, en fait, la première fin essentielle, c'est la gloire de Dieu, glorifier Dieu. Et dans la mesure où je glorifie Dieu, je trouverai mon bonheur. Et ça continue, même pour nous chrétiens. On dit, bien sûr, gloire de Dieu, posséder le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la gloire de Dieu et c'est la possession du bonheur éternel. Souvent, nous sommes plus sensibles à la possession du bonheur éternel. Mais la vraie possession du bonheur éternel glorifie Dieu. Dieu est heureux. Mais il y a les deux. Il y a les deux. La volonté de Dieu, c'est de glorifier et de rendre heureux. En se communiquant tout son bonheur. Dans l'ordre, selon une volonté, selon un plan. Péché mortel, gloire de Dieu détournée. Dieu veut les choses dans un ordre. Péché mortel, désordre. Désordre par rapport à la fin ultime. Ce qui fera la différence d'ailleurs entre péché mortel, péché véniel, voyez-vous. Péché mortel, désordre total par rapport à la fin ultime, la fin, le but, le terme. Et puis péché véniel, pas sur la fin ultime, sur des fins secondaires, moins importantes, si on peut dire. Ou alors, si la fin ultime, mais pas avec toute la connaissance, ou pas toute la volonté, en tout cas. Ni toute la connaissance, ni toute la volonté. On s'amuse un peu en chemin, on s'arrête. Mais on veut toujours le bien ultimement. On veut toujours quand même, mais on s'arrête un peu trop, plus qu'il ne faudrait. Dans des biens qui nous enlèvent pas totalement Dieu, qui n'enlèvent pas totalement la grâce, mais qui arrêtent l'élan vers Dieu, qui coupe l'élan un peu vers Dieu, au moins sur une créature sur laquelle on bute, on trébuche un peu. Gloire de Dieu, bonheur de Dieu, voilà. Et le contraire, pas la gloire de Dieu, pas le bonheur de Dieu, en Dieu, péché mortel et péché véniel. Génial, on va rentrer dans un détail plus important. Alors vous voyez, l'ordre. Alors je voulais un petit résumé de tout ça, qui est pas mal fait, bien fait, très bien fait. Pour synthétiser, attention, sur l'ordre. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Ce sont les perfections divines connues, aimées, recherchées et vécues, exaltées. Voilà. Et en particulier, toutes les perfections, mais très spécialement son amour, qui est le fond intime de Dieu, le fond intime du Père, du Fils, c'est d'aimer. Tout acte isolé, tous les actes réunis de connaissance, d'amour et d'honneur en sont la forme. Dans la vie de la Trinité, Dieu possède, connaît, aime toutes ses perfections. Voilà, cette gloire, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je puis et je dois connaître, aimer, honorer Dieu. Dieu qui se révèle à moi. C'est à cette gloire qu'on appelle la gloire. Tout à l'heure, je dis la gloire éternelle que je recherche Dieu, c'est la gloire intrinsèque. Et la gloire qui est rendue par ces créatures, on appelle ça gloire extrinsèque, parce qu'elle vient de extra, d'une certaine façon, hors de Dieu. Donc je dois dévouer ma vie à la gloire de Dieu. La vraie piété, la vraie dévotion, la vraie volonté de Dieu, le véritable exercice du chrétien, de l'homme, de l'être humain, c'est de chercher la gloire de Dieu et son bonheur en Dieu. J'agrandirai non seulement en moi, mais autour de moi cette gloire. Dieu me fait cet honneur tout divin de pouvoir être pour lui et avec lui auteur et propagateur de la vie divine. Et voyez, même, on voit très bien ce prolongement de cette gloire divine à travers les parents, par exemple, on appelle qu'il y a une procréation. Hein. Ils sont chargés, ils sont les premières images voulues par Dieu pour faire connaître Dieu. Eh bien, ils sont participants de cette gloire de Dieu. Voilà. Leurs enfants, ils doivent communiquer ça en premier dans l'éducation. Au passage. Le dévouement aux intérêts de Dieu me fera donc exercer autour de moi toutes les influences vitales que comporte ma vocation, vocation humaine, ma destinée. Alors, où est le désordre? Le désordre, c'est de me laisser tromper par la satisfaction créée. Le bon Dieu avait prévu que tout ce qui est créé doit servir à sa gloire. Donc je dois en user en vue de sa gloire, en vue de sa volonté, selon sa volonté plutôt, puisque la volonté est une voie vers cette gloire. Et chercher ne pas mettre mon bonheur total, ultime et définitif dans aucune créature, fût-elle un ange ou moi-même. Le désordre, c'est de me laisser tromper par le plaisir créé qui, au lieu de me faire passer rapidement et facilement à travers les créatures, me fait adhérer. Je m'embourbe, je m'arrête, je me repose en dehors de ce que Dieu veut, de l'ordre. Un attachement aux créatures, et finalement à moi, et finalement aussi, à travers les créatures et moi, un attachement, peu à peu, qui peut s'avérer, suivant l'intensité de l'acte qui nous fait attacher aux créatures, adhésion, tôt ou tard, risque d'adhésion aussi à l'esprit du démon. Le mal n'est pas dans ma satisfaction et même, mais dans le déplacement et le renversement que j'opère pour prendre comme but ce qui n'est qu'un instrument. Bon, Dieu a mis des satisfactions créées, mais elles ne sont que des signes, que des aides. Et chaque fois que je m'y arrête, surtout si je m'arrête de façon ultime et à la place de Dieu a fortiori, eh bien là, détournement. Voilà le vrai mal. Rien n'est mal que cela. Et tout ce qui y participe, tout ce qui y conduit, tout ce qui en vient, c'est là la perversion de la vie. Alors il y a des désordres là-dedans. Il y a un désordre. Et ces désordres à des degrés. Ce détournement de la fin qui fait qu'on ne veut plus la gloire de Dieu, mais au contraire d'une certaine façon le mal de Dieu. Et à travers le mal de Dieu en Jésus-Christ. Et le mal de Dieu, quand on veut le mal de Dieu, le mal de Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui s'ensuit? Le mal de l'homme. Hein, souvent, on est obligé de remonter par l'inverse. On voit le mal de l'homme, les effets du mal de l'homme par le péché. Après, on comprend, on saisit un petit peu qu'il y a aussi le mal de Jésus-Christ, beaucoup. Puis après, on dit, ah, le péché, c'est le mal de Dieu. Trois grandes étapes du désordre. D'abord, le plaisir créé est mis un peu comme fin, un peu sur le même pied que la gloire sacrée. L'âme est comme divisée, partagée. Dieu n'est pas seul, toute ma fin. Il y a un partage, presque au pied d'égalité. Un partage, presque. Ensuite, les fascinations, deuxième degré, les fascinations du plaisir prennent le pas sur l'honneur divin, qui passe au second rang. Il y a un renversement, une espèce de préférence de l'humain au divin. C'est une tendance. Plutôt le domaine du péché véniel, ça. Une petite prédominance à l'humain. Cède un petit quelque chose à la nature. Pas droit, pas droit. Domination. On appelle ça plutôt domination, une certaine domination, une tendance dominatrice, on pourrait dire. Enfin, le plaisir mauvais en vient à cet excès horrible d'exclure la gloire de Dieu, de tuer la vie divine, de séparer l'homme de Dieu. L'exclusion. Alors, j'ai pris par degré monté, mais l'exclusion, c'est le péché mortel. Une tendance dominatrice, plus ou moins forte, plus ou moins, c'est le péché véniel. Puis le partage, presque le pied, bon. C'est imperfection, on est un peu partagé. Pas totalement à Dieu, comme bon, tout le domaine de l'imperfection. Et alors, le retour vers Dieu va évidemment consister à exclure l'exclusion du péché mortel, qui est le mal de Dieu. Ensuite, cette espèce de domination, bon, de tendance dominatrice, un peu péché véniel, et puis aussi qui est plus okay, sans aucun partage. Alors là, c'est le domaine strict de la perfection. Exclure péché mortel, vous reconnaissez vie purgative. Exclure le péché véniel, délibéré, plutôt vie illuminative, délibérée, à titre d'État, je répète, et puis exclure tout partage, aimer sans partage, on dit, hein, sans partage, sans division, sans laisser un moindre chose mal, alors là, bon, état de la vie d'union, tendre à cette vie d'union. Hein, voilà la déchéance, et puis la remontée. Hein. Péché mortel, mal de Dieu en fin ultime. Péché véniel, commencement du mal de Dieu. Un peu moins de gloire rendue à Dieu. Et, dans mesure où il y a ce mal de Dieu, ce sera aussi, par reflet, le mal de l'homme. Alors, je vais vous le lire tout de suite, parce que, comme ça, ça me permettra de commenter et de synthétiser à nouveau. C'est un circulaire. Une parabole du Père Emmanuel dans les deux cités. C'est très beau. Très beau, très symbolique, très... Vous allez tout de suite voir de quoi il s'agit. Une belle parabole. Une parabole, oui, dans les variétés, à la fin des deux cités du Père Emmanuel. Jadis, il y avait une belle et riche vallée, belle de toutes les beautés de la nature, riche de tous les dons du Créateur. Attends, c'est voulu, ça glorifie Dieu, la nature glorifie Dieu. Et pourtant, on l'appelait, alors il donne ici un nom hébraïque, je vous passe, ça signifie vallée de larmes. Bon. Et pourtant, on l'appelait, cette belle chose, belle nature, vallée de larmes. Ah. Là vivait une grande famille, grande et heureuse autant qu'on peut l'être ici-bas. Le père se nommait de son nom oriental. Je vous passe le nom, je lis la traduction, qui est après. Alors, qu'est-ce que c'est la traduction de ce nom? Ah oui, son nom c'était l'Ancien des Jours, l'Éternel. Je vous lis pas les noms parce que, bon, hébreu, ça va vous faire penser à des choses que je souhaite pas trop évoquer. Bon. Mais ses enfants l'appelaient d'un nom plus court et plus doux, et ils disaient ordinairement Abba. C'est l'Éternel, mais il l'appelait Abba, papa. Ses chers enfants étaient tous aimés, et pour cela même, ils étaient tous aimants. Ah, que c'est bien trouvé. Chers amis, question. Est-ce que le bon Dieu nous aime parce que nous sommes bons, ou nous sommes bons parce que Dieu nous aime? Nous, quand nous aimons, en général, nous aimons parce qu'il y a une bonté qui est un peu antérieure à nous ou supérieure à nous. Pour Dieu, c'est pas du tout comme ça. Et là, il y a un principe très enrichissant pour la vie spirituelle. Je suis pas bon, bon Dieu m'aime pas pour mes beaux yeux, mon joli cœur, ma belle intelligence, ma généreuse volonté. Je suis bon, j'ai une bonne intelligence, un bon cœur, une bonne volonté, un corps au service de Dieu, parce que Dieu m'aime. Voilà ce qui devrait être à la base de notre vie spirituelle. Je serai bon, je suis bon dans la mesure où Dieu m'aime, je serai bon et je deviendrai bon, même si je suis encore bien mauvais, parce que Dieu m'aime. Non pas « je pense, donc je suis », ça, on s'en fout, à la limite, en plus c'est pas tout à fait, ça a été occasion de perversion en philosophie. Dieu m'aime, donc je suis. Voilà. Dieu m'aime, donc je suis. Et oui, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même pour le pire pécheur de la terre. S'il est encore, s'il existe encore, c'est qu'il y a encore, Dieu l'aime, est prêt à l'aimer et lui donner sa vie surnaturelle. Dieu m'aime, donc je suis. De même que Dieu ne connaît pas les choses parce qu'elles sont, mais elles sont parce qu'il les connaît, eh bien de même, Dieu, c'est parce que Dieu nous aime que nous sommes bons. Bonté de la nature, bonté de la grâce par don gratuit du baptême. Et donc, qu'est-ce qui fait que certains sont plus aimants que d'autres? Bah, parce que d'abord, ils reçoivent plus généreusement, ils sont plus, c'est vrai. Et d'où vient, Saint Augustin nous dit, en couronnant leur mérite, vous couronnez vos dons. Ils ont répondu plus généreusement. Ah, c'est bien en partie d'eux, en partie de la grâce. Mais il y a quand même quelque chose qui vient d'eux, qui est de leur mérite propre, mais mystérieusement caché aussi dans la grâce de Dieu. Très mystérieux. Ces chers enfants étaient tous aimés, et pour cela même, ils étaient tous aimants. Prenons une retraite, prenons conscience, c'est très important, retraite, des dons de Dieu, les bienfaits de Dieu, les bontés de Dieu. Pensons à ces bienfaits. Saint François de Sales, c'est ce qui encourage l'amour. Et même à raison des péchés. J'ai péché, il a continué de m'aimer. Comment il fait? Il est fou le bon Dieu ou quoi? J'ai des graves péchés, des graves choses, mon tête contre lui. Et il continue de m'aimer. Comment il fait? Il a un amour tout puissant. L'autorité d'Abba était souveraine. Elle n'en était que plus bienfaisante. Ah, tiens. Ah bon, une autorité souveraine, c'est bienfaisant? Bah oui. Les modernes ne comprendraient pas ça. L'autorité de ce père était souveraine, d'une souveraineté d'amour, et elle n'en était que plus bienfaisante. L'obéissance des enfants était parfaite, ah oui, et jamais elle n'était pénible. Ah, ça c'est pas le péché originel. Parce que toujours elle était demandée, comment cette obéissance est une obéissance d'amour, dit Saint François d'Assise, dit ça. Obéissance d'amour qui satisfait à Dieu et aux hommes. Obéissance d'amour qui satisfait à Dieu et aux hommes. Un jour, Joseph, un des enfants d'Abba, travaillait dans les champs avec sa sœur Myriam, un étranger qui feignait d'être très fatigué. Oui, il devait être très fatigué parce qu'il a parcouru beaucoup de chemin pour tenter les hommes. Un étranger feignant d'être très fatigué semblait venir à eux. Myriam dit à l'intuition féminine, j'ai peur. Et Joseph reprit, ah, l'homme, bon, peut-être des fois un peu orgueilleux, mais viens, ne crains rien, féminateur. Je suis là. Cependant, l'étranger arriva jusqu'à eux et voulut se reposer près d'eux afin de jouir du plaisir de leur société. Tu parles. Myriam gardait un silence gros de réflexion et de crainte. Joseph était tout à la confiance. On verra pourquoi. La conversation s'engage. Et l'étranger, feignant une grande affection pour ses enfants, s'informe de leur travail. Ah, bon moyen de déclencher l'apostolat, là. Qu'est-ce que vous faites, vous? Et de leur fatigue, mes pauvres. Les 35 heures. Et plus encore de leur père. Ah, le travail, les fatigues, le père. Tiens, tiens, tiens. Le secret du père. Secret du père. Le secret d'amour du père. Le démon, il veut nous l'arracher, ce secret d'amour. À l'entendre, le travail est trop pénible. Tiens, tiens. La fatigue n'est pas assez rémunérée par les produits de la terre. Quant à leur père, l'étranger n'en dit pas long, son silence. Mais il paraissait très pensif et il garda le silence assez longtemps. Joseph lui demanda s'il n'était pas malade. « Je ne suis point malade, dit l'étranger. S'il n'avait pas quelque chagrin, je n'ai pas de chagrin en ce qui me touche. » Son chagrin, évidemment, c'est de voir des âmes aimées de Dieu qui vont prendre sa place. « Si son chagrin ne serait peut-être pas, alors Joseph dit, votre chagrin ne serait peut-être pas pour vos parents ou pour vos amis. » « Mon chagrin, mes enfants, c'est pour vous-même. » Ça ressemble, c'est le refrain, vous allez voir, le refrain de tentation du péché originel du paradis terrestre. À ce mot, Myriam trembla de tous ses membres. Elle sentit décidément l'intuition, celui-là, il n'est pas des bonnes intentions. Joseph la prit par la main et ne pouvant la rassurer, il la renvoya chez son père. Ah, affronté tout seul, Joseph, terreur des démons. Je sais pas, hein, c'est pas Joseph et Marie, hein, vous allez voir, mais il a pris ces noms-là. Bon. Joseph demeura seul avec l'étranger, et celui-ci demeurait muet. Je vous en prie, lui dit Joseph, faites-moi connaître le chagrin que vous avez à notre sujet. Votre langage m'étonne, d'autant plus que notre famille est très heureuse. Persuadé que d'être chrétien, c'est pas. Sous la conduite d'un père que nous aimons et qui nous aime encore mieux. « Mon ami, reprit l'étranger, vous êtes dans une étrange erreur. »« Quelle erreur ?»« Plusieurs fois, je vous ai entendu dire, « Mon père, notre père !»« Savez-vous bien ce que ce mot-là veut dire »« Savez-vous bien ?» Ah, ça, c'est très prophétique, vous savez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est attaqué ? Bien sûr que la mère est attaquée, la femme est attaquée. On attaque le père, le chef. À travers la femme, c'est ça qu'on vise. Les deux sont visés, spécialement. Couper la tête. Pas de père, pas de prêtre, pas de pasteur. Le moins possible chez les enfants, l'image du père. D'un tyran, d'un seigneur, d'un maître, tout ce que vous voulez, d'un chef, un sectateur, mais pas de père. Surtout pas l'image du père. De quelqu'un de supérieur, de bon, d'autorité, sainte, bonne. Détruisons l'image du père pour qu'il n'y ait plus de fils, plus d'enfants. C'est terrible cela, terrible. Mon père, notre père, savez-vous bien ce que ce mot-là veut dire? Le mot, je suis pas un habitant de Kiryat Sefer. Kiryat Sefer, c'est quoi? Alors, je vous dis, hein. C'est la ville des lettres, l'université, laïque, obligatoire. Je ne suis pas un académicien. Ah. Mais la chose, le nom, moi, je sais pas l'étymologie de père, etc. Bon. Mais la chose, père, ah, je sais, cela me suffit. J'ai l'expérience de ce père, de sa bonté, de sa puissance, de sa sagesse, de son intimité. Cela me suffit. Mon père est bon et il nous aime. Avec cela, je suis assez savant. Ah, voilà. Mon ami, j'ai grande compassion de vous, car je vois que vous êtes dupe d'un sentiment. Ah. Et d'un sentiment qui n'a rien de scientifique. Ah, un sentiment. Sentiment. Pas mauvais, le sentiment. Condition que ce soit pas du sentimentalisme. Et c'est pas scientifique. Ah. Expliquez-vous s'il est possible, car je ne vous comprends guère. Vous allez me comprendre. Alors que vous étiez plus jeune, c'est-à-dire sans connaissance et sans expérience, un homme s'est trouvé plus fort, plus puissant que vous. Il vous a rendu quelques services, j'en conviens. Sous-entendu, il vous a créé, vous a fait habiter dans sa maison, etc. Mais il vous les a fait payer plus cher que de raison. Il vous a ôté à votre liberté. Ah, liberté, liberté. Il vous a asservi à sa volonté. Dieu tyran, plus père, tyran. L'image qu'amène le démon. Tu es un tyran, et tu veux du mal. Et le père, pareil. Et les parents, pareil. Et les chefs, pareil. Il vous a asservi à sa volonté. Vous ne sachant pas démêler l'autorité avec la tyrannie, vous avez accepté l'état de dépendance. Eh bien, vous savez, dans l'ordre, quand nous sommes dans l'ordre, nous pendons à Dieu. point de vue de nature. Si Dieu cesse un instant de penser à nous, on retourne dans le néant. Nous pendons à Dieu, nous dépendons de Dieu, nous sommes suspendus à Dieu. Et en être de plus en plus conscient avec amour, c'est ça vivre de Dieu, dans la grâce. Et vous avez subi un esclavage d'autant plus formidable que vous paraissez l'aimer. Joseph est confondu. Mais tout cela me confond, et après tout, mon père, c'est mon père. Ah, vous le croyez ainsi? Mais oui, je le crois. Très bien. Mais considérez donc, mon ami, que ce mot « je crois » n'est pas du tout scientifique. Ah, je crois, c'est pas scientifique. Ah, bon. Scientifique. Kézako. C'est pas écrit Kézako. Cela veut dire, c'est pas démontré, comme sont démontrées les conclusions des sciences. Vous croyez, dites-vous, que Abba est votre père. Et par suite de cette croyance, vous affirmez qu'il l'est, et vous lui demeurez soumis comme un esclave. Mais en réalité, qu'en savez-vous? En avez-vous été témoin? Eh oui, on doit croire que nos parents sont nos parents, enfin, en principe. Et vous ne savez, et si vous ne savez pas par vous-même, ah, soit avoir par moi-même, tout, même ce qui dépasse ma raison. Et si vous ne savez pas par vous-même, quels témoins dignes de foi sont venus vous le dire? Le témoin, c'est mon père lui-même. Vous reconnaissez l'acte de foi. Le témoin, c'est mon père lui-même. Le témoin, c'est son amour pour moi. Le témoin, c'est tous ses bienfaits. Du sentiment, tout cela, mon ami, du sentiment tout pur. Il n'y a là ni science, ni expérience, ni démonstration. Rien de positif, ou positiviste. Scientifiquement parlant, vous n'avez pas de père. Ah bah ça, elle est bonne. C'est tout contre le bon sens, c'est pas écrit. Si c'est cela de la science, je l'envoie à tous les diables, moi, à votre science, et vive mon père. Ah, très bien. L'étranger se lève et sans rien ajouter reprend son chemin et ne tarde pas à disparaître. Son travail fini, Joseph revient à la maison. Myriam l'attendait avec une certaine anxiété. Elle avait raconté à ses frères le commencement de l'histoire. Joseph n'est pas plutôt arrivé que tous lui demandent l'histoire. L'histoire, Joseph la raconte, et quand on eut ri assez, on voulut juger. C'est stupide ce type. C'est un fou, disaient les uns. C'est un imbécile, disaient les autres. L'aîné de la famille n'avait pas ri du tout. « Mes amis, dit-il à ses frères, si ce n'est pas le diable en personne, dites que je ne m'y connais pas. »« Eh oui, fit Myriam, j'ai eu si peur. Si j'avais su, j'aurais eu peur bien autrement encore. »« Ah, qu'il n'y revienne pas, dit Joseph, je ne serais pas si bon que de l'entendre. » Et toute la famille continua à croire à son père, un père au ciel, bon, et à l'aimer et à lui obéir. Et toute la famille continua à être heureuse. Fin de la parabole, suivie de l'explication. La riche vallée, c'est le monde que nous habitons. Tous les biens que nous y possédons sont des dons de Dieu. Et tant qu'on les reconnaît et reçoit comme dons de Dieu, dont on n'abuse pas, nous sommes dans l'ordre. Si on en abuse gravement, péché mortel, en partie, pas avec pleine connaissance ou pas pleine advertance, ou sur des biens moindres, des biens qui ne sont pas de l'ordre des commandements graves. S'il y a de la souffrance ici-bas, c'est le fruit du péché. Et pour cela, le monde s'appelle la vallée de larmes, à cause du péché. La famille, c'est le genre humain. Dieu est son créateur, l'ancien des jours. Nous, nous l'appelons notre Père. L'amour dont il nous aime est le principe, la source de l'amour dont nous l'aimons. Plus nous lui sommes soumis, avec amour, plus nous attirons à nous ses biens. Et ses biens nous poussent sans cesse vers lui. Et plus nous assurons notre bonheur. Mais nous sommes ici, bas, exposés à la tentation. La tentation, on peut la craindre, comme Myriam, elle s'enfuit, c'est le parti d'ailleurs le plus sûr, quand la tentation se présente. Il faut la fuir et se tenir tout près du bon Dieu. Joseph, lui, a cru bon de braver la tentation, parce qu'il pouvait la vaincre. Joseph, ça peut être Jésus-Christ, par exemple, qui affronte le diable au désert. Et cela nous apprend qu'il est toujours bon de savoir ce que pense l'ennemi, pas pour être trompé par lui, hein, mais pour répondre à ses mauvais desseins. C'est dans cette pensée que saint Paul écrit que Satan ne gagne rien sur nous, car nous savons ses desseins. Le tentateur feint toujours de nous vouloir du bien. Il nous plaint, il est sensible à nos peines, il nous rend agréable le péché, lui qui veut nous jeter dans des peines mille fois plus grandes. Il y a pour nous trop à souffrir sur la terre, nous serions plus à l'aise en secouant le joug de l'autorité de Dieu. « Vous êtes malade, disait Joseph à son interlocuteur. En effet, tout esprit qui vient nous chanter le mépris de Dieu est malade. » Il souffre, il a perdu la foi, il a perdu la grâce, il a perdu le chemin du ciel. Et il voudrait en plus nous le faire perdre. Mais nous sommes dans l'erreur. Je ne suis pas un académicien, dit Joseph, la ville des lettres. Kyriat s'y fait. Mais la vérité, c'est le bien de tout le monde. Si elle n'était accessible qu'aux savants consommés, Dieu ne serait pas bon comme il l'est. Le tentateur alors affecte de vouloir nous instruire. Nous n'avons pas vu Dieu, à cause de cela, il prouvera que nous ne pouvons pas le connaître. Nous n'avons pas vu Dieu, mais la vie qu'il nous a donnée, nous la voyons, et qu'il nous conserve à chaque instant, et l'amour qu'il a pour nous, et les bienfaits dont nous lui sommes redevables, tout cela nous le montre à l'œuvre, nous aimant et nous faisant du bien. Cela doit nous suffire. Les hommes qui ont étudié, certes, connaissent les démonstrations de l'existence de Dieu et de ses souvenirs de perfection. Mais ces démonstrations n'ont pas besoin d'arriver à tous les hommes. Ce qui a besoin d'arriver, ce sont les perfections de Dieu, spécialement sa sagesse, sa puissance, sa bonté. Ces démonstrations ne sont pas arrivées à tous les hommes, mais les perfections, elles, au moins, éclatent sur les hommes, au moins quelques reflets. L'humanité croit à son Dieu, comme les enfants d'une même famille croient à leur père. Et en croyant ainsi, nul ne se trompe. Et plus l'humanité grandit dans la foi et la connaissance, plus elle est heureuse et en même temps vertueuse. Plus elle s'éloigne de Dieu, plus elle est vicieuse et malheureuse. Connaître le péché par contraste avec ce qu'est l'amour, la grâce, la vertu. Quand on a bien saisi ce contraste, être ordonné à notre fin ou être détourné de notre fin, alors on connaît en intensité ce que peut être un péché mortel. Alors j'introduis la distinction que je vous ai donnée au début de... Je ne prétends pas tout vous dire sur le péché mortel ou sur le péché véniel, loin de là, en route. Mais vous saisissiez l'intensité, que vous saisissiez l'essence même de ce péché. Désordre, détournement, contradiction avec la fin. Et alors on peut l'être par acte, un acte qui est passager, tombe dans un péché mortel, bon, préparé par mauvaises habitudes, par violence de la tentation, par surprise, bon, par inclination, par résistance, résister longtemps, puis paf, on tombe. Ou par état, un état, c'est-à-dire un habitus mauvais, une disposition dominante habituelle. Alors il faut bien distinguer ces deux choses-là. Le père Kolb dit qu'il est plus grave de tomber, d'habiter habituellement un état de péché véniel délibéré de façon habituelle. Et on est lié sur un point qui n'est pas très grave, mais habituel, que tomber accidentellement dans un péché mortel. Oui, par emportement, par bon, tas de choses. Par imprudence, par bon. Mais fuir l'état de péché mortel, évidemment. On peut supposer, vous venez en retraite, bon. La plupart d'entre vous fuyez de façon habituelle le péché mortel, hein, ce désordre par rapport à la fin ultime. Et le grand mal du péché, vous le savez, c'est la séparation de Dieu, c'est le premier. On la sent pas si bas parce qu'il y a plein de biens qui viennent nous en distraire. Mais l'essentiel de la damnation, il y a plein de damnés autour de nous. Pas damnés éternellement, attention, hein. Faites pas dire ce que j'ai pas dit, je mets pas tout le monde en enfer, tout le monde, non. Le fait déjà d'être séparé de Dieu, de ne pas vouloir, genre, par ignorance, par état, etc. C'est déjà la peine du dent qui commence. C'est déjà la peine du dent qui commence. Oui. Après les autres peines, le feu, enfin toutes les tortures du démon en enfer, etc. Bon, on le sent moins, les gens sont pas sensibles à la privation de Dieu. Pas sensibles. Ils sont sensibles à la privation des biens, là, oui. Alors là, s'il y a une maladie, il y a une épreuve, on perd son père, sa mère, son frère, sa sœur, son époux. Bon Dieu, jusque-là, on a considéré que c'était un peu comme le chauffage. On le descend quand on a besoin en hiver, il fait froid, alors on le descend dans la maison. Et puis, quand il n'y a pas besoin, je te refile au grenier. Ah, mais le jour, il y a une épreuve. Dieu n'est pas juste, il n'est pas gentil, il n'est pas bon. Et dis donc, toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu jusque-là? Zéro. Bon Dieu, rien du tout. Bon, pas toujours, hein, pas toujours. Les grandes épreuves. Bon. Bien. Peine du dent, séparation de Dieu, et cette séparation de Dieu, cet éloignement de Dieu, cette contradiction de Dieu, cette privation de Dieu qui commence par état, si on est dans l'état de péché. Je dis pas forcément même que c'est une répétition de péché grave. Bon, faut voir d'où ça vient. Il y a des causes, faut essayer d'analyser, de voir. Bon. Mais pas l'état. Pas l'acte autant que possible, bien sûr, mais pas l'état. C'est-à-dire une disposition habituelle, permanente, voulue, intense, suivie. Non, pas ça. Et puis lutte, évidemment, lutte. Et les saints, le signe que nous aimons la vérité, c'est la haine de l'erreur. Le signe que nous aimons le bien, c'est la haine du mal, la haine du péché. Et on voit plus les saints, c'est des proches du bon Dieu, puis ils ont haï tout ce qui pourrait les conduire même de loin au péché, même venir à le délibérer. Alors péché mortel, détournement complet de la fin, qui mérite l'enfer. Voilà. Péché venir à le délibérer, par état. On a une attache, qui est pas mortelle, bon Dieu, pas mortelle, non. Mais... attaché à ça. On lutte pas. On veut pas lutter. On fait aucune lutte contre ce type de péché, cette mauvaise habitude. C'est pas bon. Parce que c'est une chaîne, c'est un fil. Et puis si ce fil, le diable t'a fait transformer le fil en la ficelle, ficelle en corde, et corde en chaîne. Alors il faut, je pense que dans l'ensemble, en général, bon, il y a tous les états des retraitantes qui viennent, bon, il y aura bien sûr sortir du péché mortel. La première chose à faire est de prendre les moyens qui vont nous aider, aimer Dieu, à prendre les moyens de la volonté de Dieu qui vont nous aider, la prière, la pénitence, etc. Mais en général, le gros travail, pour des chrétiennes qui ont fait déjà plusieurs retraites, etc., qui recherchent ou qui déjà connaissent et combattent leurs défauts dominants, lutter, réduire le nombre de péchés véniels, qui sont les péchés en matière légère, ou en matière grave, mais sans pleine connaissance ni pleine advertance quand c'est commis. Il faut faire reculer ça, diminuer ce nombre des péchés véniels. Le diminuer, le faire reculer, qu'il y en ait moins. Et le faire par amour pour Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu, vous voyez, souvent dans le péché, pourquoi nous sommes troublés, nous en parlerons plus demain pendant la confession, pour la confession. Il y a souvent du trouble qui suit le péché. Mais souvent, le trouble n'est pas à cause de Dieu. Le plus souvent, ce n'est pas à cause de Dieu qu'on est troublé. On est troublé parce qu'on a perdu quelque chose, soit du côté des biens matériels, soit du côté de notre réputation, soit du côté surtout de notre vilain amour propre. C'est ça qui nous perturbe. Vous pouvez lire dans le combat spirituel, chapitre, 25, 26, je sais plus très bien, 25, entre 25 et 28. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire quand on a commis une faute. Aussi grave soit-elle, un grave péché mortel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas regarder la faute. Parce que ça réveille les passions, ça réveille le découragement, ça réveille l'amour propre. Regardez Dieu, revenez vers votre Père infiniment bon qui vous tend la main pour vous tirer de là. C'est ça qu'il faut faire, le regard sur Dieu d'abord. Parce que c'est en regardant Dieu, en prenant le goût du bien, que le mal, j'aime pas. Vous voyez? Quand on a le goût, l'expérience. Alors bien sûr, on dit chassez le mal, vous allez avoir plus de goût pour le bien. Mais l'inverse aussi est vrai, il faut les deux en fait, les deux. Le combat contre le mal va nous donner le goût du bien, va au moins écarter certains obstacles pour expérimenter le bien, mais le goût du bien, l'expérience du bien, l'expérience de Dieu, avère que, ça ressemble pas à Dieu, c'est pas de Dieu, c'est pas bon, c'est pas pour son amour, alors, pas des rétros, bien, voilà, bien voir ça. Alors, surtout, fuyez, bon, bien sûr, un état, bien sûr, est préparé par une suite d'actes intenses qui fait que ça devient une chaîne, que ce soit l'état de péché mortel, une suite d'actes qui fait qu'il y a un habitus, pas seulement une habitude, c'est un peu matériel, l'habitude, il y a un habitus, un penchant, et qu'il faut rectifier, on instaure une bonne habitude, un bon habitus, par l'habitus contraire, l'habitus mauvais, bien sûr. Et pour l'habitus véniel, faire reculer nos défauts, ces défauts qui ne sont pas directement péchés, qui sont des imperfections souvent, mais qui deviennent source d'une multitude de petits actes de péché véniel, et puis d'attache, vous voyez. Quand vous voulez gagner indulgence, on vous dit, il faut accomplir les œuvres, prier pour le pape, et souvent la condition la plus difficile, c'est l'attache au péché véniel. Qui vient souvent notre défaut ou nos défauts dominants. Oui. On en parlera peut-être plus pendant la confession et les résolutions de ces questions-là. Voilà. Donc retenez bien ça, et si vous avez retenu que ça, et puis donc, quand vous allez peut-être ne passez pas votre retraite évidemment à préparer une confession, ça peut être utile, mais regardez Dieu, et puis bon Dieu va vous dire ce qu'il veut vous dire, quoi. Mais surtout, bien ce désordre par rapport à la fin. À la fin totale, ultime, pour le péché mortel, à des fins partielles, à des moyens, vous voyez, ou alors la matière est grave, mais je vous disais pas l'intelligence, soit la volonté à pas tout, l'advertance et la connaissance n'est pas pleine, vous voyez, hein, mais travailler à faire reculer ça, par surtout la connaissance de Dieu qui est dispensée, qui est réactualisée durant une retraite, l'amour de Dieu, expérience du bien, de sa bonté, de sa bienveillance, en pensant c'est bien fait, vous voyez, bien fait, puis souvent on pense à nos méfaits à côté, pas pour se décourager, pour dire, il continue de m'aimer, je fais des méfaits, puis il continue de m'aimer quand même. Oh, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon, le bon Dieu. Vous voyez, hein? Donc, connaître, amour, puis ensuite, c'est de servir. Alors là, servir, c'est tout le travail, évidemment, de l'obéissance, de l'humilité, etc. C'est pas l'obéissance, c'est désobéissance. Obéissance, désobéissance, humilité, orgueil, il y a un combat des contraires, comme on dit, dans l'ancienne médecine, les contraires. Comment on va faire? En nous mettant du côté de Dieu. Connaître les choses comme Dieu les connaît, aimer les choses comme Dieu les aime, et puis les vouloir et les rechercher comme Dieu veut que nous les voulions et nous les recherchions. Nous allons nous rendre à la chapelle.